Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
La pollution de la rivière Télé suite aux activités minières dans la région de Mangui aurait fait 13 morts dans le territoire de Banalia, province du Bazuélé, à la limite avec la province de la Tchopo. Le président de l'Assemblée provinciale du Bazuélé qui alerte affirme avoir proposé au gouverneur de la province de la Tchopo quelques mesures urgentes à prendre pour arrêter le carnage. Ouverture ce vendredi du procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai dernier à Kinshasa. 53 personnes devront comparaître pour cette infraction devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré. Le tribunal est en foraine à la prison militaire de Ndolo. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi, Milor Ngoy Chucha, est l'invité de ce journal. Il va parler de la sécurité de la souveraineté alimentaire en RDC, thème des journées scientifiques organisées le week-end dernier par cette université pour tenter de sortir le pays de la dépendance alimentaire. Bonjour à tous. Avant le développement de tous ces titres, parlons d'abord sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de la Teranga du Sénégal se sont neutralisés hier, jeudi 6 juin, au stade Abdoulaye Wad de Diamnia Dior à Dakar. Ce match comptait pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ismaïl Assar et Fiston Maïle Kalala sont les buteurs de cette rencontre. Menés depuis la 45e minute par les Lions du Sénégal, les Léopards de la RDC sont revenus au score à la 85e minute par l'intermédiaire de Fiston Maïle. Les protégés de Sébastien Desabre sont troisième au classement et recevront le dimanche 9 juin à Kinshasa les Togolais. Dans la province du Bazuélé, 13 personnes auraient trouvé la mort au cours du mois dernier dans les villages baignés par la rivière Télé, située à 75 km de Bouta à la limite avec la province de la Tchopo. Selon le président de l'Assemblée provinciale du Bazuélé, qui le révèle à Radio Okapi, après avoir rencontré le gouverneur de province mardi dernier, ce drame serait occasionné par la pollution des eaux de la rivière Télé, suite aux activités minières dans la région de Mangui, dans le territoire de Banalia. Une mission conjointe effectuée par la Division provinciale de l'environnement et la Société civile environnementale du Bazuélé en avril dernier s'en est rendue compte, affirme le numéro 1 de l'organe délibérant du Bazuélé, Simon Toutou, et dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Il y a une exploitation minière qui s'opère dans la localité de Mangui, précisément à Banalia, qui aujourd'hui présente des conséquences énormes sur les populations de la province du Bazuélé. Je voudrais vraiment alerter l'opinion sur le fait que jusque-là, il y a 10 des non-villages qui sont affectés par le fait que la rivière Télé est polluée. Et comme ils consomment les eaux de la rivière Télé, ils se lavent des dents, ils font la lessive, et selon l'étude qui a été menée du côté Bazuélé, on a dénombré pratiquement 13 morts et sans compter des dégâts sur le plan environnemental. Et c'est ainsi que nous, Assemblée provinciale du Bazuélé, nous avons pensé entrer en contact directement avec les autorités de la province de la Tchopo, notre province sœur, de manière que nous puissions réfléchir ensemble et trouver solution à cette question qui reste très épineuse pour nos populations. La relation entre la Tchopo, c'est une relation historique parce que la Tchopo et le Bazuélé, nous tous, nous sommes de la Grande Orientale. C'est le découpage qui nous a séparés. Nous sommes le même peuple. Ce qui touche au Bazuélé aujourd'hui touche également la province de la Tchopo.
Le président de l'Assemblée provinciale du Bazuélé dit avoir proposé au gouverneur de la province de la Tchopo quelques mesures urgentes à arrêter afin de juguler l'hécatombe, notamment la prise en charge sanitaire des victimes et la suspension des travaux d'exploitation minière en attendant que des mesures efficaces soient prises. C'est aujourd'hui vendredi que s'ouvre le procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai à Kinshasa. Devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine à la prison militaire de Ndolo, 53 personnes comparaissent pour cette infraction dont elles sont chargées par le ministère public. À cette première audience d'introduction, le tribunal s'attellera à identifier tous ces prévenus et leur signifier les charges qui pèsent sur eux. Rappel des faits en cours. Avec vous, Jeff Ngoy.
Très tôt matin du dimanche de la Pentecôte pour les chrétiens, une partie de la commune de Gombe est en émoi. Des balles crépitent dans le quartier où siègent la plupart des institutions politiques. La résidence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est attaquée par un groupe de gens non autrement identifiés. Aux commandes se trouve un certain Christian Malanga. Après échange de tirs à balles réelles autour de cette résidence, on compte quelques blessés et morts dans le rang des policiers et de gardes commis à la sécurité de Kamerhe et des présumés assaillants. Ils s'ensuit un renfort militaire pour les neutraliser après un repli à la rotonde du Palais de la Nation, bureau officiel du président de la République qui y est absent. Le chef de la bande est définitivement neutralisé selon le porte-parole des FRDC qui rapporte les faits. Sur la toile, on les voit hisser l'ancien drapeau du Zaïre. Attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme sont les préventions pour lesquelles ils sont poursuivis, dont le mobile réel reste à découvrir à travers ce procès.
Dans le chapitre de l'économie, commençons par la réponse de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo à ce qu'on peut appeler une avalanche des réactions suscitées par la décision de la Banque centrale au sein de l'opinion. Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo confirme que la lettre adressée aux établissements de crédit et aux sociétés financières leur demandant de paramétrer leurs terminaux de paiement en francs congolais est bel et bien partie de la Banque centrale du Congo avec sa signature. Malangu Kabedi intervient pour clarifier la compréhension des uns et des autres dans cet extrait que nous propose Daniel Tambinzoni.
Elle dit ceci. J'ai l'avantage de porter à votre connaissance que la Banque centrale du Congo renforce son dispositif d'encadrement du secteur des paiements en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement en juillet 2023, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements des biens et services, notamment de consommation courante via l'utilisation des terminaux de paiement électronique dans les commerces. Alors, j'ai bien insisté sur le mot terminaux de paiement électronique dans les commerces. Et c'est ici que la clarification devient importante. Il s'agit des terminaux qui sont dans les magasins, à la caisse. Lorsque un client a fini de faire ses courses et qu'il arrive à la caisse pour payer, il peut payer avec des billets, tout comme il peut payer avec une carte bancaire. Il faut faire la différence. Et c'est là où on a vu une certaine confusion dans certaines communications dans les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les distributeurs automatiques des billets.
De son côté, Jean-Paul Nemoyato, économiste, professeur d'université et ministre honoraire de l'économie nationale, estime que cette mesure de la Banque centrale du Congo de paramétrer tous les terminaux de paiement électronique en francs congolais est salutaire. Selon lui, elle fait suite à la politique de dédollarisation de l'économie congolaise fortement dollarisée. Jean-Paul Nemoyato est avec Paul Matendo.
C'est une mesure que j'estime très salutaire. Salutaire, je vais dire, parce qu'en fait, je me suis rappelé qu'en juillet 2012, j'étais membre du gouvernement, ministre de l'économie nationale, j'avais déjà pris à l'époque ce type de mesure qui consistait à obliger les opérateurs économiques à fixer le prix en francs congolais. Mais je pense que ça, c'est une suite logique. Je disais que ça contribue justement donc à la politique de dédollarisation de l'économie nationale parce que, comme vous le savez, l'économie congolaise, elle est fortement dollarisée, c'est autour de 95%. Donc, c'est une mesure salutaire que je soutiens personnellement.
Et puis nous poursuivons avec la série de reportages sur la ville de Kindu. Ce matin, nous parlons de la difficulté de construire à Kindu, la principale ville du Maniema. C'est l'une des conséquences de l'enclavement de cette ville. Arrivant à Kindu principalement par la voie aérienne, plusieurs marchandises, dont les matériaux de construction, coûtent cher et ne sont pas à la portée de toutes les bourses. C'est ce qu'a constaté Alain Irung durant son séjour à Kindu la semaine dernière. Suivez son reportage.
Lorsqu'on arrive à Kindu, on est impressionné par les belles routes et la propreté de la ville. La beauté de la ville est écornée par des contrastes architecturaux, si bien qu'on peut trouver des maisons construites en chaume à côté de celles en matériaux durables. Masoudi, un opérateur économique, en donne l'explication.
Construire ici à Kindu est très difficile. Le ciment coûte excessivement cher. Un sac revient parfois à 32, 50, voire 60 dollars. Le fer à béton non, n'en parlons même pas. Là, c'est terrible. Le problème, c'est que tout doit venir par avion.
Pour sa part, le président de la société civile affirme que la province du Maniema devrait en principe, par sa position géographique, être la plus riche car se situant au carrefour de plusieurs provinces. Maître Stéphane Kamundala.
Nous sommes une province qui compte la voie ferrée. Nous avons un grand aéroport qui est à Kindu et 24 aérodromes. Nous avons les routes. Mais malheureusement pour nous, c'est paradoxal, c'est la province la plus enclavée.
La population de Kindu demande aux autorités tant nationales que provinciales de sortir leur province du désenclavement pour assurer son essor économique.
Le volume des échanges commerciaux entre la Corée et l'Afrique est relativement bas, 2% selon l'Union africaine, constat fait lors du premier sommet Corée-Afrique tenu du 4 au 5 juin à Séoul, capitale sud-coréenne. 25 chefs d'État et des délégations de 48 pays du continent africain ont fait le déplacement. Objectif, promouvoir les relations commerciales bilatérales entre la Corée du Sud et l'Afrique dans des secteurs clés. Cynthia Bachizi.
Dans son discours de clôture, le président coréen Yoon a qualifié le sommet de nouveau chapitre pour les relations entre la Corée et l'Afrique. Il a également souligné les domaines privilégiés par la Corée du Sud pour fournir un soutien et conclure des partenariats en Afrique. C'est notamment la numérisation, l'administration en ligne, l'éducation et le renforcement des capacités, les changements climatiques, la sécurité alimentaire et les minéraux critiques. Un dialogue Corée-Afrique sur ces minéraux critiques est annoncé dans le courant de l'année. La RDC, fournisseur mondial d'un grand nombre de ces minéraux critiques, est certainement appelée à jouer un rôle prépondérant dans ces discussions. Samsung, LG, Hyundai, la péninsule coréenne tire sa force de ces industries très compétitives à l'échelle internationale. Un exemple à suivre et une source d'encouragement pour l'Afrique qui s'efforce de sortir ses habitants de la pauvreté, a déclaré le président du Zimbabwe. Notez qu'aucun délégué de la présidence ou du gouvernement congolais n'a pris part à cette rencontre. Nous sommes dans une période de transition entre un gouvernement entrant et sortant qui attend son investiture prochaine, précise une source à la présidence congolaise.
Dans le chapitre sécuritaire, d'abord dans le territoire de Beni, la société civile du groupement Baswaga Madiwe plaide pour le renforcement des positions de l'armée dans cette entité où les menaces des rebelles des ADF pèsent sur la population. Mardi, ces rebelles ont tué 16 civils à Massao, une localité du groupement située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Beni. Le président demande à l'armée de renforcer sa présence afin de protéger la population de la zone. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
Ce que nous sommes en train de demander est de renforcer l'effectif militaire dans certains villages du groupement Baswaga Madiwe. Parce que même si ce mercredi, il y a eu panique à Cantine, c'est parce qu'ils étaient informés que l'ennemi est venu juste au niveau de Kabweke. Et quand ils voyaient que Cantine, il n'y a pas un élément phare de ce, il n'y a pas un dispositif militaire suffisant, c'est ce qui a poussé la population des cantines, des centrales et même des Mabalako de commencer à fuir. Mais comme il y a déjà une ceinture qui est venue de Beni, nous espérons que cette ceinture militaire va quand même donner espoir. Alors il serait important qu'il y ait une autre ceinture militaire pour faire une contre-attaque à provenance de Magogo, Metal et Masala, jusqu'à ce que l'OPIS neutralise ses ennemis qui sont venus vers Lukaya et qui ont commencé à opérer depuis hier au niveau de Massawa.
En plus bref, au Nord Kivu, les combats se poursuivent entre les FARDC et le M23 dans les hauteurs de Kanyabayonga. De nouvelles bombes lancées par les rebelles sont tombées, l'une en pleine cité, l'autre à environ 300 mètres de la base de la MONUSCO. Aucun bilan de cette attaque n'est encore disponible. Depuis plus d'une semaine, l'armée et le M23 se battent pour le contrôle de cette commune rurale du territoire de Lubero. Dans l'ouest du pays, parlons des difficultés logistiques et financières qui entravent le bon fonctionnement de tous les 5 conseils communaux de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Les bureaux de ces institutions parlementaires ne disposent pas d'infrastructures. Stéphane Munzenza, un conseiller communal de la commune de Manunga, indique que ces conseils disent d'être laissés à leur triste sort. Il manque aussi des frais de fonctionnement depuis leur installation il y a plus de 4 mois déjà. Irène Bomaluzolo.
Depuis leur installation en février dernier, les conseils communaux de la ville de Kenge sont dépourvus des locaux devant leur servir de cabinet de travail. Les archives sont portées à la main et les élus se cotisent à chaque fois pour louer des salles publiques afin de tenir des plénières. C'est ce que déclare Stéphane Munzenza, élu de la commune de Manunga.
Nous nous débrouillons, nous nous cotisons dans l'ordre de 25 000 francs, 30 000 francs congolais pour prendre en location une salle de fête, tantôt pour louer des chaises, pour la sonorisation. Et ça, ça nous met en mal. Et notre administration est gardée par les honorables conseillers rapporteurs, soit conseillers présidents qui se promènent avec les cachets, avec les documents. Donc nous n'avons pas d'infrastructure de conseillers communaux.
Les conseillers communaux de Kenge n'ont jamais reçu ne serait-ce qu'un seul rond de la part de l'État congolais, ajoute-t-il.
Je peux vous affirmer que nous n'avons depuis le début reçu aucun sou de l'État congolais, aucune motivation.
Stéphane Munzenza indique qu'actuellement, les conseils communaux du chef-lieu de la province du Kwango comptent entrer en contact avec les bourgmestres pour notamment procéder au contrôle au niveau des différentes communes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des militants pro-démocratie au Soudan ont fait état d'une centaine de morts dans une attaque menée contre un village hier par les forces de soutien rapide FSR, paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise. Au moins 35 enfants ont été tués.
L'invité.
La sécurité et la souveraineté alimentaire en RDC étaient au centre des journées scientifiques organisées par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Lubumbashi le week-end dernier. À cette occasion, les experts ont fait des recommandations pour sortir le pays, notamment le Haut-Katanga, de la dépendance alimentaire. Pour en parler, le doyen de cette faculté est notre invité, Milor Ngoy Chucha, s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le doyen, bonjour.
Bonjour.
Comment peut-on assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire en RDC, plus particulièrement ici à Lubumbashi, quand on sait que la ville de Lubumbashi dépend en grande partie de l'importation, même pour des biens qui pouvaient être trouvés localement?
C'est effectivement l'objet de nos journées scientifiques. On tourne autour de la sécurité alimentaire. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées justement. Ces pistes de solutions partent principalement de l'amélioration de nos pratiques culturelles, de l'amélioration de notre système d'élevage, de l'amélioration de notre système de production de semences pour être plus ou moins autonome et souverain. Mais par-dessus tout, le constat qui se dégage, c'est une question d'abord liée à de la volonté politique. Parce que nous avons des conditions qui sont de loin meilleures par rapport à ce qu'on a en Afrique australe. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, notre production est complètement déficitaire. Donc c'est une question de volonté politique. Les experts ici ont présenté des très bons modèles, des très bons plans de développement du secteur agricole qui existent. Mais maintenant, nous devons trouver un moyen de faire bouger le politique pour qu'il puisse investir effectivement dans la production agricole.
Est-ce un problème d'investissement, un problème de moyens ou un problème de la diversification économique?
C'est vraiment les trois problèmes tels que vous les avez épinglés. À la fois un problème d'investissement, parce que la production agricole à l'échelle industrielle pour nourrir la population et même la nation exige un investissement important. Déjà un investissement en termes d'infrastructures routières, parce qu'il faut relier les centres de production et les centres de consommation. C'est un problème d'investissement dans les infrastructures même de production et de transformation. Nous avons un déficit énergétique qui est décrié dans le secteur minier, mais c'est le cas aussi dans le secteur agricole. Si on veut faire de la transformation, il nous faut absolument améliorer l'approvisionnement en énergie électrique. Et c'est un investissement aussi en termes de semences de bonne qualité, en termes de fertilisants. Le tout est vraiment chapeauté par une bonne politique agricole. On voit qu'il y a un regain d'intérêt pour le secteur de l'agriculture, mais il faut que cela soit encadré et appuyé justement par les décideurs. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les sols tropicaux de manière générale, et les nôtres en particulier, ne sont pas des sols de très bonne qualité pour de la production agricole. C'est vrai que par endroits, comme ici chez nous dans la vallée de la Loufira, on peut trouver des sols de très bonne qualité, mais la grande majorité de nos sols sont des sols qui sont d'abord très acides d'abord, très pauvres en nutriments, et qui exigent souvent un apport en amendement pour les améliorer. préparer. Et donc, il faut un investissement. On ne peut pas prétendre à de la production de grande qualité et en grande quantité si on n'investit pas dans les fertilisants.
Et donc, assurer la sécurité alimentaire, la souveraineté ou l'indépendance aussi, ce n'est pas pour demain.
Ça peut se faire très vite. Nous avons les ressources humaines. Il y a des secteurs qu'il faut encore former. Il faut encore former des techniciens. Nous avons un regain d'intérêt pour le secteur, mais la volonté politique peut faire que nous pouvons aller très vite. Ça peut se faire vraiment très vite.
Pour terminer, avec ce dérèglement climatique, il y a les pays de l'Afrique australe qui, généralement, nous fournissent en produits agricoles, le maïs et autres, qui sont frappés. Mais comment est-ce que la province du Haut-Katanga, particulièrement la ville de Lubumbashi, peut facilement s'en sortir parce que les mois qui viennent ne seront pas de bon augure pour la province?
Pour le moment, nous sommes obligés, à très court terme, d'aller chercher là où le maïs peut être disponible pour approvisionner la province. Deuxièmement, c'est de sensibiliser aussi la population pour recourir à d'autres sources alimentaires. Ça veut dire en dehors du maïs, on peut promouvoir d'autres spéculations qui existent. Et puis, sur le moyen, sur le long terme, nous encourageons déjà ce que la province fait en termes d'appui à la production locale avec des subventions. Maintenant, nous devons appuyer à nouveau cela, continuer et essayer d'optimiser ce qui se fait déjà pour le moment.
À Lubumbashi, il faut combien de tonnes pour s'autosuffire?
Pour l'ensemble de la province, on a estimé le besoin à plus ou moins 800 000 tonnes. Donc les besoins sont quand même par an. Ça fait quand même beau.
La province produit combien annuellement?
Nous sommes largement en dessous.
Donc le gap est très important.
Le gap est absolument...
D'où l'implication de tout le monde dans l'agriculture.
Tout le monde dans l'agriculture. Et comme je l'ai dit, l'agriculture est une activité qui exige beaucoup d'investissements. Il faut investir dans les infrastructures.
Même à petite échelle?
Même à petite échelle, on peut le faire. Il faut de l'investissement. Il faut soutenir les filières pour que les agriculteurs à la base se retrouvent. Nous, ce que nous prenons, c'est que l'agriculture se fasse sous forme de business actuellement. Et cela est possible.
Monsieur le doyen Choucha, je vous remercie.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.